première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Par oui dire.
ICA-WB, Audrey Comtesse.
Plutôt parler de l'ICA. En fait, c'est l'Institut culturel d'architecture Wallonie-Bruxelles. Et donc, son petit nom sera l'ICA, qui existe depuis le mois de juin 2019, donc qui est tout jeune, qui découle d'un appel qui a été lancé par la ministre de la Culture, Alda Gréoli, à l'époque, en janvier 2019. Donc, tout a été très rapide, pour créer un nouvel opérateur culturel de l'architecture pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est le projet que j'ai présenté avec 4 centres culturels qui a été sélectionné.
L'ICA WB.
Et à une fois, j'entends... Je dis, qu'est-ce que c'est que ça ?
La prison change.
Très agréable avec le long des étangs.
On appelle une maladie honteuse. Vous
allez où ? 11e.
Ces lieux nous parlent.
Donc il a fallu créer d'abord la SBL, dont les membres sont les représentants des 4 centres culturels, à savoir le centre culturel de Namur, dans les anciens abattoirs de Baumel, l'Éden, donc le centre culturel de Charleroi, le centre culturel de Huy, et Recyclard, ici à Bruxelles, qui n'a pas le statut de centre culturel, mais de centre d'art et de culture.
ICA WB, Institut culturel d'architecture, Wallonie-Bruxelles. Audrey Comtesse a parlé de votre présence dans cette opération de l'ICA. Comment se manifeste-t-elle en tant que directrice du Centre culturel de Huy?
On est ici vraiment aux prémices des relations avec l'ICA. Le Centre culturel de Huy, c'est un centre culturel qui travaille déjà sur 18 communes, donc qui fédère déjà des rencontres régulières entre des communes tout à fait rurales et des communes de la banlieue liégeoise plutôt industrielle et la petite ville entre guillemets bourgeoise de Huy. Nous avons été interpellés début d'année pour être associés à la fondation de cet institut d'architecture et on a quelque part mis les pieds dans le plat assez rapidement parce que ça nous semblait logique, en étant témoin au quotidien des relations des habitants avec leur ville, leur village, leur quartier, qui avait un réel enjeu social de l'implication de l'être humain dans son environnement.
Justine Dantois.
Des questions sociales, des questions plus esthétiques, des questions de lutte parfois de génération sur le j'aime ou j'aime pas par rapport à l'architecture contemporaine, des questions parfois de manque d'outils au service des administrations communales, des habitants, des riverains, pour comprendre à un moment donné l'évolution d'un quartier, le pourquoi du comment de l'installation d'une chose, que ce soit quelque chose d'industriel, de privé, d'associatif dans un quartier. Et quelque part, on a les oreilles ouvertes à toutes ces problématiques-là, les yeux pour le voir. Et dans les centres culturels, on est rarement outillé pour pouvoir répondre, en fait, et amener ces clés de compréhension-là. Et donc, ça nous a semblé un outil indispensable, justement, pour recréer ce lien et cette discussion et cette rencontre entre les gens et leur environnement par rapport à toutes les questions architecturales, qu'elles soient de l'appréhension de l'espace public, quelle place le citoyen peut encore prendre dans l'espace public, toutes les questions liées aussi à ce fameux sentiment d'insécurité. Comment est-ce qu'on le gère, si ce n'est avec une épure au maximum, par exemple, des places publiques, pas de petits recoins, pas, moins en moins de bancs, par exemple, moins en moins d'arbres. Comment est-ce qu'on travaille ça ensemble, en fait, avec les gens, tout bêtement?
Le bâtiment ici a été construit entre 1995 et 1997.
ICA WB, Institut culturel d'architecture, Wallonie-Bruxelles.
Le programme consistait en fait en l'extension d'une école pour 400 élèves. Alors il y avait plusieurs impératifs à respecter. Donc il fallait porter une réflexion sur la modularité des classes, donc pouvoir permettre une certaine forme de mouvance dans le temps. Et ce bâtiment devait absolument rentrer dans une enveloppe budgétaire serrée, c'est-à-dire 30 000 francs du mètre carré au maximum. Donc en 1997, remis en euros en 2019, ça fait plus ou moins 1 000 euros du mètre carré. C'est pas grand-chose. Et alors, il y avait par contre à ces contraintes une grande liberté, c'est que le choix de l'implantation était laissé libre à l'architecte. Donc il pouvait choisir où est-ce qu'il s'implantait. Et Thierry Lanotte, associé à Pierre Lambi, parce qu'ils étaient, collaborateurs associés à ce moment-là, ont choisi de venir adosser leur bâtiment à la colline. Donc il faut s'imaginer qu'ici, il y avait un fort dénivelé. Et ils ont créé ce bâtiment en venant s'insérer le plus possible sur le site.
IKWB, Institut culturel d'architecture, Wallonie-Bruxelles.
L'idée de s'appuyer en fait sur des centres culturels découle véritablement de l'appel où la volonté est de mettre en place un opérateur qui fédère l'ensemble des autres opérateurs culturels sur l'architecture en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais qui favorise surtout la notion culturelle de bottom-up, ancrée dans son territoire et qui est en lien avec le citoyen. Donc l'idée n'est pas du tout de faire un institut en plus qui parlerait des architectes aux architectes, mais qui véritablement
Audrey Comtesse
pose l'architecture et pour moi les métiers de l'architecture à nouveau au centre entre le citoyen et pouvoir politique. Donc c'est-à-dire entre les utilisateurs et les acteurs. Ça veut dire aussi au niveau de la promotion privée, de remettre vraiment les métiers de l'architecture au centre.
Institut culturel d'architecture Wallonie-Bruxelles, par Thierry Genicot.
On voit ce bâtiment qui se développe en strates successives et qui vient en fait affleurer la colline qui était présente avant les interventions.
Production. Fédération Wallonie-Bruxelles, cellule architecture.
Ah ben on ne sait pas. C'est bien le principe de la culture, c'est qu'il n'y a pas de réponse. La réponse, c'est la rencontre, c'est le débat, c'est d'ensemble trouver un chemin, c'est de pouvoir entendre les différents points de vue, c'est de pouvoir exprimer son accord, son désaccord, c'est pouvoir s'accommoder, se raccommoder parfois en tant que riverain et quartier. C'est un boulot en fait du quotidien, de tous les instants. C'est pour ça que je trouvais ça assez important de bien insister sur le fait que ce n'est pas un débat uniquement esthétique. C'est vraiment un débat citoyen sur qu'est-ce qu'on fait de notre environnement, comment est-ce qu'on s'y implique ou pas, comment est-ce qu'on est acteur ou pas, comment est-ce qu'on fait évoluer les choses en fonction de réalités mixtes et communes. Et pour ça, il faut un lieu où on discute de ça.
Collège de l'Abbaye de Fleuref.
Pourquoi est-ce que je parle de Pierre Lambi aussi? Parce que Pierre Lambi a été collaborateur chez un autre architecte namurois très important, qui est Roger Bastin, et qui est justement l'auteur du bâtiment qui précède celui-ci, et qui est juste là. C'est une longue barre de classe au rez-de-chaussée. Ce sont des chambres d'étudiants à l'étage.
Justine Dandois,
directrice du
centre culturel de l'arrondissement de Huy.
Audrey Comtesse, à vous écouter, les centres culturels que vous avez choisis, qui sont partenaires de votre démarche, sont des centres installés dans les villes. Mais qu'en est-il de la campagne?
Effectivement, on a des représentants de différentes tailles de villes. Et oui, il faut souligner que c'est centre culturel d'arrondissement.
Avec Audrey Comtesse, Justine Dandois, Chantal de Sanville, Perrine Ernest, Kevin Versailles, Sophie de Kenny, Julien Dailly, Jean-Pierre Romain et Bénédicte Liénard.
Donc là, on retrouvera Chantal Dassonville, qui est la directrice de la cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Je pense qu'effectivement, pour ceux et celles qui connaissent le parcours de la question de l'architecture en Belgique francophone, c'est vraiment un momentum aujourd'hui, puisque, vous l'avez dit, 2004, le Livre Blanc, un ouvrage collectif dans lequel on avait rassemblé à la fois des personnalités du monde académique, du monde professionnel et du monde institutionnel, et qui avait donné lieu à cette espèce de cahier de revendications, on peut l'appeler comme ça. Il y avait 36 revendications qui tantôt s'adressaient effectivement au pouvoir politique, tantôt s'adressaient au pouvoir académique, et tantôt s'adressaient aux organisations professionnelles.
les architectes vont implanter leur bâtiment entre le bâtiment Bastin et les constructions anciennes du XVIIIe siècle. La réflexion qui a été portée sur ce bâtiment en strates fait aussi analogie avec le passé du site, puisqu'en fait, on y cultivait la vigne, il fut un temps. Donc, il y a une sorte de corrélation entre le passé du site, la topographie et le projet.
Institut culturel d'architecture, Wallonie-Bruxelles.
Le SIVA, c'est quand même 1999 à Bruxelles. Le Vlaams Architecture Institute, c'est 2001.
On publie aussi Yearbook, c'est un annuaire, exactement, chaque deux ans.
Bah, ça donne quelques balises.
Et dans l'annuaire, on utilise une manière de stratification, c'est-à-dire il y a des plans, il y a des photos, il y a des essais qui analysent vraiment le projet, mais il y a aussi des courts textes qui sont pour un grand public très faciles à lire, de comprendre le projet. Et comme ça, cette manière de communication, de stratification, nous aide beaucoup à essayer d'acquérir des différents publics.
Ça donne une balise, évidemment, du temps qu'il a fallu pour convaincre, du temps qu'il a fallu pour que, quelque part, je le disais tout à l'heure en aparté, le fruit soit mûr.
Sophie de Kenghi.
Le Vlaams Architecture Institute, il travaille sur la Flandre et sur Bruxelles. Donc pour nous, l'ICA va bien entendu travailler sur la Wallonie et sur Bruxelles, c'est-à-dire sur la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Et donc c'est vraiment la particularité de l'ICA, c'est qu'on n'a pas un lieu, mais qu'on a des lieux.
Donc il s'agit pour nous, en quelque sorte, aujourd'hui, de rééquilibrer le paysage de l'architecture, d'équilibrer ce paysage avec des institutions sur l'ensemble du territoire à jeu égal.
La volumétrie générale qui est établie en strates est dynamisée, si on peut dire, par trois dispositifs. Le premier, c'est celui par lequel on vient de rentrer. En fait, c'est un axe oblique qui s'appuie perpendiculairement sur le bâtiment Bastin et qui vient créer une faille, qui est l'escalier, qui est un peu une rue centrale et qui est l'axe névralgique en fait du bâtiment, puisque toutes les circulations se regroupent sur cet axe et distribuent ensuite de part et d'autre les couloirs de classe.
Alors que nous avions pris du retard, aujourd'hui je pense qu'on peut être fier d'être à jeu égal.
Un deuxième rapport, je dirais, contextuel, c'est, on le verra mieux quand on sera tout en haut, mais vous verrez qu'il y a des voiles courbes qui ont été coulées de ce côté-là du bâtiment et qui en fait viennent contraster avec l'orthogonalité du bâtiment Bastin. Donc on a un rapport formel qui contraste entre un bâtiment préexistant et une intervention contemporaine au moment où ça a été construit.
Nous avons également toujours eu un fil conducteur qui était de dire, en fait, en l'absence d'un opérateur culturel reconnu comme tel et stable en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y avait une tentation. On sait bien que la vie n'aime pas le vide, hein, que tout le monde fasse un peu de tout. Et donc, effectivement, nous, cellules d'archi, nous avons œuvré un peu dans tous les sens, faute d'avoir les institutions telles qu'elles existaient déjà par ailleurs. Donc nous avons fait de la politique culturelle, nous avons tenté de faire de la politique culturelle sur le terrain en matière d'architecture, mais il faut bien le reconnaître, au départ d'un ministère, ça n'est pas tout à fait la mission de base, d'autant plus que la mission essentielle que nous espérons voir prendre en charge par l'ICA, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un bottom-up, c'est-à-dire partir des territoires, partir des différents publics à sensibiliser, que ce soit les enfants, que ce soit les élus, que ce soit les citoyens.
Le troisième dialogue formel, c'est une sorte de mise à l'écart par rapport au bâtiment du 18e. Donc on verra quand on ira plus par là, qu'il y a un petit patio qui vient permettre de créer une petite placette entre le bâtiment du 18e et ce bâtiment-ci, ce qui permet de ne pas trop s'adosser aux constructions anciennes.
Kevin Versailles.
Je vous propose qu'on fasse un petit tour du bâtiment. Donc j'ai encore deux, trois petits points à voir avec vous, mais je vais attendre d'être positionné plus stratégiquement pour pouvoir le faire. Contrairement à ce qu'on aurait envie de faire, c'est-à-dire franchir tout droit, on va faire un petit détour par le couloir là-bas pour remonter au niveau, ce qui vous permettrait de voir un peu les jeux de circulation qui sont dans le bâtiment.
Parce que c'est une culture de l'architecture à construire.
Et donc c'est vraiment la particularité de l'ICA, c'est qu'on n'a pas un lieu, mais qu'on a des lieux. Donc des lieux sur lesquels on peut s'appuyer, avec lesquels on peut travailler, comme par exemple, là pour notre semaine de lancement, le travail que nous allons réaliser avec le Centre culturel de Namur.
Pour présenter en quelque sorte notre vision de l'architecture lors de cet événement. Et la demande de base était d'investir de petits volumes qui font partie des abattoirs de Baumel, qui sont les anciennes guérites.
Et donc à ces différentes échelles, on souhaite, nous, être l'intermédiaire entre donc ces utilisateurs-acteurs et les architectes. Et quand je parle des architectes, c'est à la fois les architectes tels qu'on l'entend généralement, mais c'est aussi les urbanistes et les paysagistes. Donc tous les métiers de l'architecture qui se sont diversifiés depuis ces dernières années.
On a élaboré un projet. Et au lieu d'investir l'intérieur de la guérite pour présenter la manière dont on voit l'architecture, on a décidé d'emballer ces guérites par l'extérieur et donc de sortir l'architecture justement de l'intérieur, de la confidentialité, pour le déployer sur l'espace public.
Et l'idée, c'est vraiment ça, de proposer des actions culturelles qui vont se montrer à peu près 2 fois par an, à chaque fois dans un lieu différent, que ce soit dans les centres culturels fondateurs, mais aussi partenaires. Et l'idée, bien sûr, est d'ouvrir, d'avoir plus de partenaires, qu'ils soient fondateurs ou non, mais de s'ouvrir à un maximum.
En recréant une enveloppe autour des guérites, on recrée en fait un espace qui est un peu l'entre-deux. Et c'est ça qu'on trouvait intéressant, c'est quand même de percevoir l'ancien tout en ayant une approche sur une architecture un peu plus contemporaine à l'extérieur et de brouiller un peu les repères en créant un nouveau lieu qui serait un peu justement un entre-deux.
Donc ce n'est pas un emballage à la manière de l'artiste Christo.
Oui, c'est vrai qu'il y a une similitude, mais bon, il y a une démarche un peu artistique. C'est vrai que le parallélisme, c'est presque qu'on souhaite aussi questionner un peu la place de l'architecture dans l'espace public. Donc ça, c'est vrai que sur ce point-là, c'est similaire. Mais par contre, il y a aussi une notion d'expérimenter l'espace, donc justement d'expérimenter cet entre-deux.
IKWB, Institut culturel d'architecture, Wallonie-Bruxelles.
Une des ambitions de l'ICA pour les 3 ans à venir est de baliser un petit peu l'histoire contemporaine de l'architecture et des démarches architecturales sur le territoire Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour cela, nous mettons différents types d'actions culturelles en place. L'une d'entre elles s'appelle « Sous influence » et l'idée est de partir de bâtiments qui ont émergé et qui, à un moment donné, ont influencé les démarches actuelles. Je pense par exemple au cinéma La Souvenir de V+, à Liège. Et nous sommes allés interviewer le bureau pour savoir, eux, ce qui les avait influencés, que ce soit des personnes, que ce soit des moments de vie, que ce soit des rencontres, que ce soit des lectures, qui auraient influencé leur démarche et qui expliquent qu'ils soient arrivés à ce type de démarche. Et donc nous allons interviewer, là dans le cadre de l'exposition au Centre culturel de Namur qui a cours actuellement, nous avons déjà interviewé 5 différents bureaux qui influencent actuellement la jeune pratique architecturale en Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour faire son pendant et pour justement essayer de voir quelle est cette jeune architecture contemporaine en Fédération Wallonie-Bruxelles, nous lançons une autre action culturelle qui s'appelle Vue sur, donc Vue sur un bureau.
Et alors, pour encore insister sur ce côté expérimentation, le soir, on va déployer un dispositif qui va projeter de la lumière et de la fumée à l'intérieur des espaces, ce qui va permettre encore plus de renforcer ce côté expérimental, de brouiller les repères, de brouiller la perception des matériaux, des reflets, voilà, c'est quelque chose qui sera un peu unique. Perrine Ernest.
On l'exemplifie dans le cadre de l'exposition avec le bureau namurois Spécimen, à qui nous avons demandé, par une intervention spatiale, en l'occurrence une action sur les 2 lieux de pesée des anciens abattoirs de Baumel, faire une action spatiale pour exprimer leur démarche architecturale.
Alors, du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les revendications qui nous étaient adressées, une réappropriation de l'architecture dans le champ des politiques culturelles. Ça, c'était la première revendication.
Ce qui a appelé le petit patio, en réalité, c'est simplement un recul de ce volume-ci, qui permet de laisser un petit peu d'air par rapport au bâtiment du 18e.
Donc ça exemplifie notre volonté, mais nous allons, pour ça, lancer un concours qui s'adresse à la jeune architecture, où on leur demande d'aménager virtuellement une chambre, une personne, avec des dimensions standards, et d'exprimer virtuellement leur démarche architecturale, à nouveau de façon spatiale, d'accompagner avec un court texte cette vidéo, puisque ce sera une vidéo finale qui sera visible sur notre site internet.
On va continuer par là.
C'est vraiment immédiat. Immédiat, je pense que les citoyens doivent s'impliquer dans leur cadre de vie. Et c'est en leur donnant des clés de lecture de ce cadre de vie aussi. Hein, comment apprécier le cadre environnant sans être dans cette espèce de formulation basique « j'aime ou je n'aime pas » parce que c'est évidemment beaucoup plus complexe. C'est pour ça que je disais, de grâce, ne cantonnons pas le débat sur l'architecture à une question, à un débat d'esthétique. C'est vraiment un débat beaucoup plus large, beaucoup plus important.
Mais je crois qu'elle a été fondée au XIIIe siècle. Et alors, c'est assez intéressant parce qu'il y a plus ou moins chaque siècle est représenté dans les édifices plus anciens. Mais je ne pourrais pas vous éclairer davantage. Mais c'est un site qui est très très riche au point de vue histoire architecturale.
Et il est visité en tant que tel ? Il est visité en tant que tel, en tant que lieu d'architecture ?
Ce bâtiment ici ?
Non, le site.
J'aurais tendance à dire non.
Alors, tous les centres culturels, je pense qu'ils sont 210, hein, Fédération Wallonie-Bruxelles. Évidemment, tous les centres culturels ne vont probablement pas se mobiliser. Il y en a qui l'ont déjà fait. Le centre culturel du Brabant Wallon a depuis toujours intégré la maison de l'urbanisme dans son action territoriale. Je pense qu'il y a une vraie opportunité là, et Madame la Ministre, vous venez de le dire vraiment très justement, aller vers. Aller vers et ne pas exiger que les publics viennent.
Un autre diptyque d'action culturelle, dont un des éléments s'appelle l'Atlas des possibles. Donc dans possible, il y a à la fois potentiel et possibilité. Donc l'idée, c'est un petit peu de cataloguer ce territoire. Donc là, on est vraiment sur le territoire et de voir par rapport à des questions sociétales ce qui est possible de faire pour apporter des réponses par le projet architectural urbain et paysager.
Institut culturel d'architecture Wallonie-Bruxelles, par Thierry Genicot. Production, Fédération Wallonie-Bruxelles, Cellule Architecture, avec Audrey Comtesse.
La première édition, le premier appel de cet Atlas des possibles qui s'appelle « Comment habiter la densification de manière qualitative ?». Et donc ça s'adresse à la fois aux citoyens jusqu'aux politiques, en passant par les promoteurs privés, par les comités de quartier, enfin vraiment au plus grand nombre. On va aussi joindre les étudiants des écoles d'architecture pour créer des petits ateliers qui chacun vont étudier plus spécifiquement une des questions liées à cet enjeu sociétal. Et donc cet appel est lancé jusqu'au mois de février et on en verra les résultats au fur et à mesure sur notre site internet et au mois de juin lors d'un des autres événements que nous allons organiser.
Je trouve que l'implantation est fabuleuse dans son contexte, donc qu'il soit vraiment inséré dans la colline. Le lien qu'il a fait avec le bâtiment de Roger Bastin est visuel au niveau du lien physique. Et puis les différents éléments qui ont été mis en place, donc l'oblique guidé par la lumière. Et après, on a des questions par rapport à l'état dans lequel on peut trouver le bâtiment 20 ans après. Est-ce que c'est une mauvaise exploitation ? On nous a aussi dit que c'est un bâtiment qui avait été conçu à 1000 euros du mètre carré, ce qui est encore moins qu'une maison clé sur porte de Thomas et Piron. Donc voilà, toutes ces questions se pose.
Audrey Comtesse, avez-vous des exemples de cette démarche critique que vous appelez ?
Je m'appelle Kevin Versailles, je suis architecte. J'ai écrit un certain nombre de notices sur les bâtiments de Thierry Lanotte dans le cadre du guide de l'architecture moderne et contemporaine en province de Namur-Luxembourg, qui va bientôt sortir. Donc voilà, c'est pour ça que je prends un peu le relais de Monsieur Lanotte pour vous faire découvrir son bâtiment.
La première fois, donc, avec la création de l'ICA, que le paysage belge francophone se dote enfin, devrais-je dire, sans doute, d'un opérateur culturel de référence en architecture. Donc à côté du SIVA à Bruxelles et du Vlaams Architecture Institute en Flandre, il était temps et opportun que la Fédération Wallonie-Bruxelles ait son pendant, donc un opérateur culturel capable de coordonner la diffusion et la promotion de l'architecture telle qu'elle existe, telle qu'elle s'invente et se développe en Belgique francophone.
Thierry Lanotte, je ne sais pas si ce nom vous évoque quelque chose, bon, pour les architectes peut-être beaucoup plus, mais c'est quand même un architecte qui a marqué, on va dire, le paysage namurois, même si on connaît peut-être pas son nom. C'est lui qui a fait notamment le bâtiment des mutualités chrétiennes à Namur, la CSC Bouge, il a fait pas mal d'extensions d'écoles. C'est aussi lui qui a réalisé le pavillon pour l'exposition universelle en l'an 2000 à Anvers, le pavillon belge.
Mon enthousiasme est réel, même si, avant toute modestie, j'arrive en fin de parcours, j'arrive à la création de l'ICA.
Et quand vous êtes ici, vous travaillez où ça?
Dans l'autre île du bâtiment, l'ancienne cuisine, en fait. Je suis chargé de communication, graphiste, infographiste, je m'occupe des sites internet, des pages Facebook et de la communication visuelle. Ça a été un grand changement par rapport à l'ancien bâtiment d'hôtel de ville où les locaux n'étaient pas du tout adaptés. Avec des pièces très très hautes, impossibles à chauffer, une acoustique abominable, des couleurs qui sont très passées. Ici, c'est un endroit vivant, très lumineux et en même temps amusant parce que en quelques pas, on passe d'une époque à l'autre. On passe du 13e au 15e et puis on repasse au 20e, on revient au 19e. Pour quelqu'un qui connaît un peu l'histoire et qui s'intéresse à l'architecture, au patrimoine, c'est vraiment très amusant.
Et donc nous clôturons ce symposium avec l'intervention de Sophie de Kenny.
Et votre présence à Namur portait sur quelles questions?
Audrey, la directrice de l'IKVB, m'avait invitée parce que, comme directrice du Vlaams Architecture Institute, l'Institut d'architecture de Flandre, on travaille déjà 20 ans sur la communication vers un grand public sur l'architecture, ce qui n'est pas facile. Mais on travaille aussi avec les architectes pour les donner un cadre culturel dans lequel les architectes peuvent réfléchir sur son discours, sur ce qui se passe au niveau international et comment ils se réfléchissent dans ce cadre. On est situé dans The Single, c'est un centre d'art, et on a des expos là. On a aussi un programme discursif, mais ça c'est surtout pour les professionnels. Il vient beaucoup d'étudiants d'architecture, beaucoup d'architectes, mais pour le grand public, on fait un festival d'architecture. Et comme ça, on essaye de traduire tous ces thèmes de l'espace, de l'architecture pour un grand public, et c'est tout à fait différent. Par exemple, cette année, on a fait le festival à Gand, et on a mis 5000 pierres comme un domino dans la ville pour vraiment connecter des différents quartiers de la ville ensemble pour ouvrir les yeux aux gens que si on fait quelque chose dans l'espace, ça donne aussi une autre ambiance sociale, une autre manière de se connecter.
Ici, on est au niveau de la cour haute, en fait, du château. Alors, il faut savoir qu'en fait, à l'origine, c'était pas un château, c'était un couvent pour les sœurs grises ici dans la commune de Fosse-la-Ville, qui a été ensuite occupé par un châtelain. Donc, c'est devenu le château Winson. Mais à l'origine, donc, les sœurs habitaient dans cette aile qu'on retrouve ici sur la droite, et elles avaient leur hospice en fait dans le bâtiment qu'on retrouve ici sur la gauche. Donc c'était une sorte d'ancêtre d'hôpital. L'implantation des sœurs grises ici à Fosse-la-Ville, elle a commencé aux alentours du XIIe siècle. Donc il y a évidemment une série de constructions qui sont arrivées progressivement sur le site. La façade ici, elle est plutôt du XVIIIe siècle, si je me rappelle bien. Mais elles étaient déjà là il y a un moment. Et donc ici, c'était vraiment leur cour d'apparat. Et en fait, monsieur me demandait pourquoi on n'a pas proposé de rentrer ici. En fait, nous, ce qu'on a proposé, c'est de vraiment connecter de manière très physique l'ensemble à la ville, mais tout en laissant la perméabilité partout où c'était possible entre l'espace public et le parc et l'équipement. Donc il y a des petites portes déjà dans le parking latéral, et il y en a une ici principale qui est ouverte la plupart du temps. Ici, comme c'est le week-end, elle ne l'est pas. Il y a moyen de rentrer, de sortir dans le site sans se retrouver bloqué à l'extérieur. Et le travail par rapport à cet espace-ci pour nous, c'était de justement laisser la perméabilité de l'espace public extérieur au parc. Donc la volumétrie ici se retrouve au premier étage. Elle reconnecte les bâtiments les uns avec les autres, mais en même temps, elle laisse le sol complètement libre de passage. Il y a cette recherche vraiment que le parc vienne se glisser en permanence dans tous les espaces du château.
Julien Dailly.
Ici, on voit un petit peu le jeu d'articulation aussi qu'on a essayé de mettre en place entre les espaces nouveaux et les espaces anciens. Donc on a mis en place une sorte de règle, un petit peu de dessin, même si elle n'était pas non plus complètement figée, où on a décidé de peindre tous les bâtiments existants, un peu comme ça se faisait avant, avec un badigeon blanc. On a simplement rénové les volumétries comme elles étaient, avec les toitures, les corniches, etc. Avec des châssis en bois, qui sont des châssis en chêne. Et par contre, pour les parties neuves, on a travaillé avec un volume complètement dissocié en fait du reste, plutôt dans les teintes sombres, avec des châssis en aluminium et du bois en façade.
C'est mon cas, effectivement, oui.
Quel est le plus gros problème de l'architecture contemporaine en Flandre ?
Ah, c'est une très bonne question. C'est une question difficile. Moi, je crois qu'il y a un problème, qu'il y a une génération qui peut réaliser des choses, qui ont une langue architecturale spécifique, peut-être unique aussi au monde, mais il y a aussi un Vlaams Bouwmeester. Mais on voit que toujours il y a des problèmes de l'espace dans lesquels les architectes ne sont pas consultés. Par exemple, la mobilité, par exemple, la qualité de l'air, par exemple, les espaces verts qu'on doit les laisser comme ça. Et ce sont en fait des questions de l'espace et de l'architecture, mais les architectes sont souvent pas consultés dans ce cadre. Je crois que ça, c'est un problème. Un autre problème est que les grands projets, c'est encore très difficile pour des architectes de travailler sur les grands projets, parce que dans les très grands projets, c'est encore l'économie qui, au fond, est la question la plus importante pour les développeurs et tout ça. Et ça, je crois que c'est encore des choses qu'on doit travailler dessus.
Et donc, nous clôturons ce symposium avec l'intervention de Sophie De Kenny, la directrice du Vlaams Architecture Institute à Anvers, qui, eux, fêtent leurs 20 ans, et qui nous donnera un point de vue sur l'effet de l'action culturelle sur l'architecture contemporaine de qualité.
La question de l'environnement et du climat est une question sous-jacente à la question de l'habiter.
Exactement.
Qu'est-ce qu'habiter aujourd'hui ?
Oui, exactement. Et dont les architectes peuvent avoir du succès, mais ça doit toujours être relié à des questions plus grandes.
À Fos-la-Ville, à mi-chemin entre Namur et Charleroi. Plutôt rural, oui, encore que maintenant les exploitations fermières sont plus rares mais plus étendues. Mais on retrouve encore dans les habitations tout en entour les anciennes traces rurales où toutes les maisons avaient un endroit pour les poules, pour les porcs. Toutes les habitations quasiment avaient un petit bétail.
L'environnement bâti avec des qualités indéniables qui méritent d'être vues. Et donc, on les montre par le biais de visites exceptionnelles.
C'est un bâtiment assez classique, pas trop cher par rapport à des chaises de bois, des chaînes. C'est plutôt dans les trucs. On a effectivement une intervention qui est assez peu intrusive quand on arrive sur le site. On va voir des bribes de projets au fur et à mesure. Quand on découvre la muraille, on voit la porte d'entrée, l'ancienne porte d'entrée, etc. On voit la tête du volume quand on vient se parquer sur le parking, etc. Mais en fait, on est progressivement... au début, on voit pas grand-chose, on voit des petits morceaux. Et en fait, on voit qu'à l'arrière, on a quand même fait une intervention qui est assez forte, quoi. Mm-hmm. Qui vient se poser quand même assez fermement, comme ça, dans le paysage, posé sur ces pilotis, qui est très visible. Alors, on va peut-être pas aller faire tout le tour, mais vraiment, le volume s'appréhende dans le parc, toujours de manière assez forte, et à contrario de la rue, où on a été un peu discret, quoi.
Ah, moi, je m'intéresse plutôt aux plus anciens bâtiments, c'est-à-dire l'autre aile du bâtiment, qui est déjà relaté dans un acte du XIe siècle. Ensuite, on retrouve encore des traces avec l'arrivée des sœurs grises au XVIe siècle, au XVe siècle. Les sœurs hospitalières, tout à fait. Oui.
Un des deuils du projet, ils ont replanté un arbre, là vous voyez, un petit arbre juste à côté de nous. En fait, il y avait deux arbres majestueux qui étaient de part et d'autre du volume et qui ont été coupés par l'entrepreneur... Je pense de manière un peu volontaire, ça l'emmerdait dans le chantier, mais ils ont coupé des branches maîtresses, en fait vraiment des branches charpentières, quand ils ont commencé à amener des ourdis, etc. On est arrivé sur le chantier, il y avait la moitié des arbres qui étaient par terre, quoi. Alors que c'était un des principes du projet aussi, c'était de venir s'immiscer finalement entre les éléments du parc qui nous avaient marqué quand on était venu visiter. Donc il y avait vraiment deux arbres de part et d'autre de ce volume en bois, plus ou moins là où ils ont replanté un arbre ici de ce côté-là, et vous en voyez un autre de l'autre côté. Bah, peut-être dans 100 ans, ce sera ce que ça devait être initialement. Voilà.
Maintenant, il y a le parc qui fait pas mal de valeur encore en tout l'espace ici. Le parc qui va être agrandi, qui va encore être aménagé. Il y aura bientôt la maison rurale ici à côté qui va pouvoir accueillir des spectacles et des événements de toutes sortes. Donc ce sera vraiment un lieu de vivre pour tous les Fossois, pour tous les habitants. Un lieu de rassemblement, on espère aussi que tous les habitants s'imprègnent du lieu et se l'approprient un petit peu.
Le paysagiste avec qui on a travaillé pour le projet ici continue la mission pour prolonger les cheminements, venir mettre dans une seconde phase tout le mobilier aussi. Dans le parc, les bancs, etc., les espaces d'assises. Là, on est sur les anciens chemins et on voit que les chemins en béton qui relient les différents espaces du complexe s'arrêtent comme ça parfois au milieu des pelouses. Mais il reste une phase à réaliser au niveau de l'espace du parc.
Sœurs Grises qui ont succédé à des frères hospitaliers, c'est-à-dire que l'endroit est très ancien puisque la ville de Fosterville a été créée par un moine irlandais qui s'appelait Feuillin, qui est arrivé ici en 650 plus ou moins. Et on sait que les monastères, habituellement, avaient à l'extérieur de leurs murs d'enceinte un bâtiment qui servait à la fois d'hôpital, d'auberge, d'accueil pour les pèlerins. Et donc, on suppose que ce bâtiment existait déjà avant le Xe siècle, mais on retrouve les premières traces écrites au XIe siècle.
Nous sommes à Fosse-la-Ville. Il s'agit de la maison communale, en fait, de Fosse-la-Ville, qui prend place dans un ancien château, le château Winson. Et dans ses dépendances.
La plupart des régions ici ont été christianisées par des moines irlandais, en fait.
Le programme était le rassemblement dans un seul et même espace de l'ensemble des services communaux, anciennement disséminés un petit peu partout sur la commune, notamment le CPAS qui vient prendre place à côté des autres services également. Et il reste le service travaux qui n'est pas implanté ici sur le site, mais l'ensemble des autres services sont là. Julien Dailly, du bureau Réservoir 1. Donc le concours date de l'été 2012, qui a été inauguré en juin 2018. Donc 6 années.
Le domaine de Fosse a été donné à Feuillin, puisque c'était son nom, par Gertrude de Nivelle, qui était de la famille des Pépinides.
La famille des...
Des Pépinides, donc de Pépin. Pépin le Bref.
Ben voilà, simplement la salle du conseil qui peut s'étendre. Là, il y a une paroi amovible qui peut s'étendre avec la salle du collège qui est juste derrière. S'il y a beaucoup de public qui vient dans le bâtiment, une des salles publiques accessibles au public où se prennent les décisions communales. Et donc, c'est évidemment à cet endroit-ci, dans un endroit où on a une vue particulière, une situation tout à fait particulière, qu'on est venu implanter la salle publique principale du bâtiment. Quoi. Donc, c'est aussi une manière de dire que c'est quand même les citoyens qui viennent assister ici, qui ont l'espace principal à leur disposition. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'espace vraiment public. Le parc est public, mais il y a la salle des mariages, certainement, où les gens viennent. Il y a la salle du conseil. Mais finalement, c'est beaucoup de bureaux fermés. Donc, il y a très peu d'espaces plus emblématiques où les gens se rassemblent. Celui-ci était le seul, et donc on lui a donné la meilleure place, pratiquement le seul.
Elle est chauffée comment, cette extension ?
Elle est chauffée avec une chaudière au gaz, tout à fait traditionnelle. En fait, on est dans des au niveau technique ici, il y a vraiment oui, la base. On a isolé toutes les parties nouvelles autant que possible, mm-hmm. Et on a chauffage, ventilation, mais vraiment assez classique. Quoi. On a quand même du double flux au niveau de la ventilation.
On a fait des fouilles au moment des travaux intérieurs de la collégiale où on a trouvé pas mal de vestiges, les anciennes églises qui datent déjà de l'époque carolingienne et mérovingienne, mais également des occupations antérieures, apparemment une villa gallo-romaine en dessous de l'église. Et bien sûr, il y a eu pas mal de domaines de villas gallo-romaines tout autour de la ville de Fosse aussi.
Le bardage comme ça, c'est quelle matière, c'est quel matériau?
C'est du peuplier rétifié. Donc rétifié, ça veut dire qu'il a été passé en étuve. Donc on a retiré les éléments organiques vraiment du bois qui font qu'il y a un pourrissement ou bien que les insectes viennent s'installer. Et ça permet d'éviter de devoir le traiter. Donc, ça augmente le peuplier de classe en fait. C'est comme du chêne finalement au niveau de la durabilité. Il n'y a aucun produit. On a quand même consommé de l'énergie pour le traiter. Mais après ça, il est stable pour 50 ans. Et le peuplier, c'est une essence qu'on n'utilise pas très souvent en construction, mais qui est voilà,
pas mal. Vous n'allez pas mettre des panneaux solaires là-haut ?
Alors, peut-être à terme, mais la commune a travaillé, comme je disais tout à l'heure, dans un budget vraiment très limité.
Ça, ils vont pouvoir investissement, peut-être faire maintenant.
Oui, peut-être, voilà, oui, tout à fait, ils pourraient.
Peut-être avoir des investissements par rapport à...
Au niveau mérovingien, on n'a pas trouvé énormément de vestiges, mis à part en dessous de la collégiale. Il y a un cimetière qui a été fouillé à quelques kilomètres d'ici, sur Esmond. Mais c'est pratiquement la seule trace d'occupation mérovingienne qu'on ait trouvée. Jean-Pierre Romain. Romain comme Romain.
Et l'orientation, c'est quoi ?
Alors, le sud est plutôt de ce côté-là, mais en fait, nous, on avait vraiment un écran végétal qui venait masquer toutes les fenêtres qu'on a mises de ce côté-là. Donc, il y a du soleil qui vient à l'intérieur. On le voit aussi le matin, c'est plutôt de ce côté-là, quand même. Donc, on a du soleil qui rentre à travers les trous-là, depuis qu'il termine sa course de l'autre côté. Avec les bardages qui sont là, non, justement. Mais avec la végétation aussi qui est tout autour du bâtiment, on a absolument besoin de faire là.
Ça fait casquette dans une certaine
mesure. Oui, ça fait par soleil. Oui.
J'imagine que les hauteurs ont été calculées un peu.
En fait, on a modifié à certains endroits la hauteur.
C'est pas les mêmes partout.
C'est pas les mêmes partout. Donc on a modifié là où il y avait du soleil qui risquait d'amener des surchauffes pour avoir un rythme un peu plus serré, avoir un peu plus d'ombre à l'intérieur.
En hiver, ça rentre.
Voilà, en hiver, ça rentre. En été, ça ne rentre pas ou pratiquement pas.
À ne pas manquer, c'est aussi une réaction à l'actualité. Et donc c'est pouvoir aider par rapport à des questions. Si par exemple on décide de démolir un bâtiment, par exemple un pont à tourner, de pouvoir aider par notre expertise à des prises de position et surtout à nourrir les débats.
De ce couloir-ci, on a accès aux deux ailes. Donc on a accès à l'ancien hospice ici et on va aller plus loin par là. On a accès à l'ancien château.
Il y a un autre format très important. C'est les ateliers. C'est des ateliers qui, bien sûr, s'adressent aux jeunes, mais aussi à l'ensemble des familles, c'est-à-dire à tous les publics. Les ateliers au cours desquels on veut aiguiser le sens critique des enfants jusqu'aux seniors, en passant par les familles, dans des modes d'action très différents, qui fédèrent également l'ensemble des actions éducatives qui ont déjà cours en Fédération en Ligne-Bruxelles, pour essayer de leur donner plus de poids et pour créer plus de liens avec les écoles. On utilise également beaucoup l'éducation permanente. Pour nous, c'est vraiment la façon de diffuser cet esprit critique de manière la plus efficace et la plus ludique.
Et donc, voilà, ici, on est vraiment dans les anciennes parties un peu plus nobles du château, où on a vraiment, nous, eu comme approche par rapport au château de laisser tout dans son jus. On a repeint et replafonné ce qui était encore en bon état. Quand il y avait des décors qui étaient un peu abîmés, qui étaient difficiles à restaurer, on les a simplement supprimés et parfois refaits un peu volumétriquement de manière un peu plus simple, un peu plus contemporaine. Mais pour des questions aussi, pour des questions budgétaires, mais aussi parce qu'on trouvait que le château finalement avait son caractère propre et qu'on avait envie de laisser les planchers comme ils étaient, laisser les sols, laisser les vieilles boiseries, etc. Dans l'état où on les a trouvés, en les restaurant au minimum.
Ikawebe, Institut culturel Wallonie-Bruxelles.
L'enthousiasme est réel et tourne surtout autour de l'idée de l'accessibilité du côté participatif du projet. L'accessibilité, c'est en fait imaginer un espace et non pas un lieu qui permette à tous les acteurs, non seulement les professionnels, mais aussi le citoyen, de pouvoir s'approprier la culture architecturale. Ça, c'est le côté accessibilité.
En diptyque, une autre des actions que l'ICA mène s'appelle « Franc-parler ». Et là, on veut tirer la force de la Fédération en Ligne-Bruxelles, la force linguistique. L'idée, c'est de créer un réseau francophone de la critique architecture, donc qui réunit la Suisse, la France, la Belgique et puis le Québec.
Le côté participatif, c'est aussi de permettre à des centres culturels, à des associations d'architectes, à des jeunes, à des moins jeunes, à un moment donné, de prendre du recul par rapport à ce qu'est l'architecture. Ce n'est pas simplement un bâti, ce n'est pas simplement de l'esthétique ou quelque chose de beau, c'est aussi quelque chose qui construit notre vivre ensemble et un facteur de cohésion sociale. Et mon enthousiasme est lié autour de ces deux accès, le côté accessibilité et participatif.
Et d'essayer de réanimer cette critique architecturale qui est un peu éteinte, mais aussi de la rendre beaucoup plus accessible et ne pas juste à nouveau s'adresser entre architectes, mais plutôt utiliser la critique pour venir toucher les différents types d'utilisateurs et d'acteurs. Parce que c'est important que chacun soit sensibilisé à la culture architecturale si on veut faire évoluer la culture de l'environnement bâti de qualité, ce qui est véritablement le but de l'ICA.
Peut-être pas l'idéal ici dans le couloir, mais donc si c'est vraiment les derniers espaces qu'on va visiter, en fait notre choix d'implantation au niveau des nouveaux volumes a permis de relier vraiment l'ensemble des volumes extérieurs. Donc il y avait l'hospice et la ferme et le château qui étaient des entités séparées. En tout cas, l'hospice était vraiment physiquement séparé du reste. Donc le fait de venir relier avec un volume arrière l'ensemble des volumes, ça permettait aussi de retrouver avec l'ascenseur qui se trouve dans la partie de l'entrée une possibilité de connexion partout de plein pied pour les personnes à mobilité réduite. Alors il y a une petite exception, c'est les quelques marches qui sont ici, mais normalement était prévu à l'origine dans le projet un petit monte charge pour passer les trois marches qui sont là, qui a été supprimé pour des questions budgétaires. Mais donc il y a moyen de rentrer quand même dans la partie là-bas du château qui est la seule aile en fait à cause de ces trois marches qui n'est pas accessible aux chaises, de rentrer par le parc. Donc ils savent rentrer par le seuil a été adapté de la porte de l'entrée principale du château.
On sera partenaire, mais je ne serai pas la seule ministre à l'être, à travailler sur ce qu'on appelle le PK, donc le parcours d'éducation culturelle et artistique, qui est en train d'être construit via le pacte d'excellence dans l'école, mais on imagine aussi une approche culturelle dans les milieux d'accueil. Étant ministre de l'enfance, on a aussi envie de pouvoir amener la culture comme facteur de développement personnel et collectif chez les tout-petits.
IKWEBE, Institut culturel d'architecture, Wallonie-Bruxelles.
Et donc nous allons organiser des workshops avec les facultés d'architecture, mais aussi d'histoire de l'art, les écoles de journalisme et les différents représentants de la presse, dont le but est que les articles qui découleront de ces workshops soient publiés dans la presse. Et donc ça, ce sera vraiment un regard sur la situation actuelle, donc qui vient bien complémenter cet atlas des possibles, qui lui va plutôt proposer par le projet de la prospective dans les années à venir, puisque le but de cet atlas des possibles, c'est de faire intervenir des bureaux d'architecture, urbanisme et paysage sur ces questions-là et de leur demander de réaliser des projets expérimentaux. Donc ils ne sont pas soumis ni à un jury, ni aux questions économiques et financières. Donc c'est vraiment de la réflexion pure, mais qui s'exprime non pas par l'écrit, mais par le projet.
Et alors cette cour-ci, donc c'est un peu le résultat de l'implantation aussi, mais c'est une cour qui était dans notre esprit plus dédiée au personnel également. Donc c'est pas en lien direct avec la cafétéria, mais c'est un espace qui se voit de la plupart des bureaux et des services de la commune. Donc on l'imaginait plutôt comme un espace aussi de détente, éventuellement même de présentation, parce qu'il y a des marches, il y a un relief, donc on pouvait imaginer de travailler avec des gradins, etc. Les gradins ont été dessinés dans le permis d'ailleurs et puis supprimés, mais on voyait ça plutôt comme un espace dédié au personnel.
Bénédicte Linard, ministre de la Culture, de l'Enfance, des Médias, des Droits des Femmes et des Droits de l'Enfant et de la Santé.
Et vous êtes ici à quel titre ? Et
donc je suis ici en tant que ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Qu'est-ce que c'est ?
Il ne sert pas vraiment beaucoup, non, je ne pense pas. Je ne pense pas, malheureusement. Mais en tout cas, il sert de fond visuel pour la plupart.
On pourrait presque faire un barbecue en été.
Mais tout à fait. Et il y a une grande terrasse pour mettre une table, des chaises et profiter un peu du soleil.
On boit encore quelque chose ?
Non, on peut rentrer le parking.
Institut culturel d'architecture Wallonie-Bruxelles, par Thierry Genicot. Production, Fédération Wallonie-Bruxelles, Cellule Architecture. Avec Audrey Comtesse, Justine Dandois, Chantal Dassonville, Perrine Ernest, Kevin Versailles, Sophie Le Kenny, Julien Dailly, Jean-Pierre Romain et Bénédicte Liénard.
Ok, rendez-vous à Ciné, l'adresse c'est...
C'est avenue Skogel. C'est assez compliqué, je vais vous les plaît, donc c'est SC. Là, il est sur le parti, je pense. Sinon, c'est SCHLOGEL.
Merci beaucoup, Julien, en tout cas.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Voilà, je crois qu'on a un peu plus de route, c'est un peu le gros morceau maintenant. Et tout de suite.